Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonjour à tous. Après l'opposition syrienne, les Kurdes renoncent à se rendre à Sotchi, où est menée à compter de mardi une médiation de paix initiée par la Russie et l'Iran. À l'origine de cette décision, l'offensive turque en Syrie. Des survivants de la Shoah au chevet de dizaines de milliers de réfugiés africains que le gouvernement israélien souhaite soit expulser, soit incarcérer. Reportage de Léa Berdugo. Nous évoquerons également les élections présidentielles à Chypre Sud, ainsi que le décès de l'éditeur et écrivain Jean-Claude Lattès. À la fin de cette édition, comme chaque dimanche, la face cachée du monde, signée Nabila Hamel. La réforme constitutionnelle syrienne apparaît comme une lointaine destination. Dans la matinée, les responsables des formations politiques kurdes ont annoncé qu'ils ne participeront pas au pourparlers de paix organisé à Sotchi, au bord de la mer Noire, à l'initiative de Moscou et Téhéran. Réunion boycottée hier par l'opposition syrienne. L'offensive turque dans le nord syrien doit cesser, martèlent les Kurdes. Et en l'état, rien ne peut être envisagé sur le plan diplomatique. Alexandre Billette nous appelle d'Istanbul.
C'est une opération qui s'annonce longue, d'abord parce que les objectifs se multiplient. Ankara veut éradiquer les forces kurdes à Afrin, mais veut aussi désormais assurer une zone tampon de 30 km de profondeur à l'intérieur du territoire syrien, tout au long de sa frontière jusqu'à la frontière irakienne, a précisé Recep Tayyip Erdogan vendredi. À l'intérieur de ce corridor, la ville de Manbij, elle aussi contrôlée par les forces kurdes et dont le viseur des autorités turques. Une ville où se trouvent des forces militaires américaines qui sont aux côtés des Kurdes. Le pouvoir turc a mis en garde Washington, presque une menace. « Retirez immédiatement vos hommes », a déclaré hier le ministre des Affaires étrangères. L'opération Rameau d'Olivier s'annonce longue, d'autant qu'à Afrin, les forces turques semblent rencontrer plus de résistance que prévu de la part des combattants kurdes, qui pourraient être jusqu'à 10 000 hommes sur le terrain. Les forces kurdes qui assurent avoir repris les villages dont l'armée turque avait annoncé la prise. Mais en Turquie, l'opération ne doit pas être remise en question. Plus de 150 personnes ont été placées en garde à vue depuis une semaine pour avoir publié essentiellement sur les réseaux sociaux des commentaires critiques à l'égard de l'intervention en Syrie.
La police russe s'invite à coups de meuleuse dans les bureaux moscovites d'Alexis Navalny et arrête plusieurs membres de son organisation. Le Fonds de lutte contre la corruption a appelé aujourd'hui à des rassemblements dans 100 villes russes avec pour slogan « Ce ne sont pas des élections mais une duperie ». Élection présidentielle russe programmée au 18 mars prochain. À Chypre Sud, les électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. L'île méditerranéenne est divisée depuis 44 ans. Le Nord est une entité autoproclamée République turque de Chypre du Nord depuis le 15 novembre 1983. Et ce, malgré des décennies d'interface et de tentatives de réconciliation. Les enjeux de cette présidentielle avec à Athènes, Angélique Kournis.
C'est sans grand enthousiasme que les Chypriotes grecs se rendent aujourd'hui aux urnes pour élire le nouveau président. Le conservateur Nikos Anastasiadis, président sortant, est donné favori parmi les 9 candidats en lice. Pour autant, personne n'est à l'abri d'une surprise, d'autant que l'on redoute une grande abstention. Les urnes s'ouvrent à 7h du matin et ferment à 18h heure locale après grande première, une pause d'1h30 à midi. Nikos Anastasiadis brigue un second mandat et deux questions ont dominé la campagne plutôt terne. L'économie et la réunification de l'île divisée depuis 1974. Côté économie, le président sortant présente un bilan positif. C'est lui qui a négocié le plan de sauvetage de 10 milliards d'euros pour l'île en 2013 en échange d'une série de mesures d'austérité terribles et d'une restructuration du système bancaire. Depuis 2015, l'économie ne cesse de croître et en 2017, le secteur touristique a connu un record historique. Pour séduire les quelques 550 000 électeurs, Nikos Anastasiadis a promis un fonds pour aider à rembourser une partie de l'argent perdu par les épargnants en 2013. Une mesure qui parle aux Chypriotes qui n'ont jamais retrouvé leur niveau de vie de 2012. Mais côté réunification, la situation est au point mort. Les pourparlers de juillet 2017 ont buté sur la question de la présence des 40 000 soldats turcs sur l'île dans la partie nord occupée de Chypre. Quelle que soit l'issue du scrutin, tous les candidats promettent une reprise des pourparlers. À noter pour la première fois, Elam, le parti ultranationaliste chypriote grec proche du parti néo-nazi grec Obdoré, présente un candidat.
Journée tragique en Méditerranée, les gardes-côtes italiens ont bien secouru 800 miraculés venus de Libye, mais les associations à pied d'œuvre déplorent de nombreuses personnes portées disparues. En Israël, dans quelques semaines, près de 40 000 immigrés clandestins africains auront deux choix, l'expulsion avec 3 500 dollars en poche, ou l'incarcération dans la prison de Holot dans le sud du pays. Face à cette politique gouvernementale jugée choquante, la société civile s'insurge. De son côté, Israël met en avant sa légitimité de contrôler l'immigration. Léa Berdugo.
Après les médecins, les pilotes, les enseignants, les survivants de la Shoah se mobilisent. 36 d'entre eux lancent un appel au gouvernement israélien pour éviter l'expulsion de 38 000 immigrés clandestins africains. Colette Avital est l'une des signataires de cette lettre ouverte.
Je crois que c'est notre devoir moral. Nous sommes un peuple de réfugiés. Je crois que, ayant eu cette expérience, nous avons peut-être un peu plus de compassion et un devoir d'amoindrir autant que possible la souffrance autour de nous.
Direction Jérusalem, c'est dans son salon que Nava Effet s'organise la résistance. Sa mission, loger les immigrés chez des familles israéliennes aux quatre coins du pays, de quoi contrer l'argumentaire du gouvernement qui dénonce une intrusion des clandestins dans les quartiers sud de Tel Aviv.
Lorsque les demandeurs d'asile affluaient du Sinaï vers Israël, vers Eilat, où on les a mis, on les a jetés au sud de Tel Aviv, qui était déjà un quartier défavorisé. Et donc, ça a explosé, ce qui est normal.
L'objectif de cette activiste, réveiller la société civile israélienne et éviter, selon elle, de renvoyer directement les clandestins à leur mort probable dans leur pays en guerre.
Au Tchad, le principal syndicat de l'enseignement supérieur appelle à une grève illimitée dans toutes les universités, mouvement d'ampleur contre la baisse des salaires. Le dernier bilan publié par le ministère afghan de la Santé est de 103 morts et 235 blessés au lendemain d'un attentat à l'ambulance piégée perpétré dans l'un des quartiers les plus fréquentés de Kaboul. Le gouvernement doit décréter l'état d'urgence, s'alarme Mirveis Sparsa, militant des droits de l'homme, qui appelle les autorités afghanes à se rapprocher de la communauté internationale pour répondre aux attaques des ennemis jurés de l'Afghanistan, à savoir les talibans. Des décennies de négligence de la part des autorités indonésiennes à l'origine d'une épidémie mortelle en Papouasie, épidémie de rougeole. Des dizaines d'enfants sont morts, des centaines d'autres sont malades. Les familles vivent dans des villages isolés, dans une province riche en ressources naturelles, et Jakarta ne s'est jamais souciée de l'état catastrophique des infrastructures. Il aura publié aussi bien des romans populaires que des ouvrages savants sur, avant tout, c'était sa passion, l'Antiquité gréco-latine. Nous avons appris ce matin la disparition de Jean-Claude Lattès à l'âge de 76 ans. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Anne, Jean-Claude Lattès, journaliste à combat, avant de devenir éditeur, puis écrivain.
C'est vrai, Jean-Claude Lattès est venu progressivement à l'édition, d'abord avec un ami, l'écrivain Jacques Lanceman, en 1968, puis il lance en 72 sa propre maison qui porte aujourd'hui toujours son nom, Jean-Claude Lattès, même si l'entreprise a été cédée en 1981 au groupe Hachette. Jean-Claude Lattès aura publié plus de 2000 livres, de nombreux succès, Le sac de billes de Joseph Joffo, Léon l'Africain d'Amin Malouf, ou encore Le vent du soir de Jean d'Ormesson. Il avait un don pour repérer des talents éclectiques, estime Bernard Pivot, un don qui lui viendrait de son parcours en journalisme. De ses origines niçoises, Jean-Claude Lattès a gardé le goût de la Méditerranée. Féru d'antiquité, il se consacrait ces dernières années à l'écriture sur les traces du roi Marcus Julius Agrippa, un oublié de l'histoire qui a vécu du temps de l'empereur Auguste. Il en a tiré une biographie intitulée « Le dernier roi des Juifs » publiée chez Nil, biographie dont il était venu parler sur France Culture en 2012 dans l'émission « Les racines du ciel ».
Il a vécu au 1er siècle. Il est né en moins 10, il est mort en 44. Il a une particularité, il a pas mal de particularités. La première, c'est qu'il est juif, mais il a du sang arabe. Il est né à Jérusalem, mais il va vivre les 30 premières années de sa vie à Rome, car il a la citoyenneté romaine. Il est un exemple vivant de ce que le premier siècle, la complexité du premier siècle, une complexité qui, je crois, nous a façonné, nous.
Voilà la voix de Jean-Claude Lattès qui était avec Frédéric Lenoir. Il était aussi l'auteur de deux autres romans, Le seul amant et Marguerite et les enragés, publiés chez Seuil.
Merci à vous, Anne Fauquemberg. Lever l'ambiguïté sur des malentendus de nature à diviser la société française. La ministre de la Culture retire Charles Maurras du livre des commémorations envisagées en cette année 2018 à la suite de protestations d'organisations antiracistes. Au préalable, Françoise Nyssen avait dit s'appuyer sur un travail d'historien qui recense des années anniversaire clé de l'histoire de France, et la ministre d'ajouter alors qu'il ne s'agissait pas de célébrer le penseur de l'extrême droite qui était Maurras, mais au contraire de connaître son rôle dans l'histoire du pays. Fin de citation. Il est 12h40 sur France Culture, c'est l'heure de la face cachée du globe et non du monde. C'est avec vous, Nabila Hamel. Bonjour Nabila.
Bonjour Mathieu. 5 experts des droits de l'homme de l'ONU ont demandé vendredi à l'Égypte de suspendre et de réévaluer toutes les condamnations à mort prononcées ces dernières années. Ils estiment qu'une grande partie de ces condamnations ont été prononcées à l'issue de procès bâclés ou à la suite d'aveux arrachés sous la torture. Le contingent de l'OTAN en Lituanie a été renforcé cette semaine par l'envoi de 300 militaires français. Ils sont en tout 1200 soldats dans le cadre de ce que l'OTAN a appelé les mesures de réassurance face à la Russie. Des dispositifs similaires existent déjà dans les autres pays baltes et en Pologne. 2 attentats à la voiture piégée ont fait 40 morts mardi à Benghazi, à l'est de la Libye. Un coup dur pour le maréchal controversé Khalifa Haftar, qui est, Hasni Abidi, l'homme qui prétendait pourtant avoir la capacité de ramener la sécurité dans le pays.
Le double attentat de Benghazi est une mauvaise nouvelle pour le général Haftar, qui pensait avoir sécurisé complètement Benghazi. Deuxièmement, il intervient dans un quartier aussi bien sécurisé parce que plusieurs services de sécurité proches de général Haftar sont installés autour de ce quartier. La troisième mauvaise nouvelle, c'est qu'il a perdu 2 hommes très importants, dont un responsable des services de sécurité dans cet attentat. Donc ça montre que finalement le général Haftar n'a pas réussi finalement à présenter Benghazi comme une victoire sécuritaire et probablement aussi comme un pas important vers la marche sur Tripoli, puisqu'il a annoncé que la sécurisation du pays va se poursuivre jusqu'à d'autres villes.
Hasni Abidi, c'est un mauvais présage pour l'organisation réelle d'élections cette année.
Il s'agit d'une une double impasse. Il y a une impasse à la fois pour le général Haftar, qui montre son incapacité et ses limites à imposer son approche sécuritaire, et mais en même temps elle le sert et elle dessert les efforts du représentant des Nations Unies, M. Ghassan Salamé, qui voulait absolument soutenir, bien entendu par la France et d'autres pays, l'organisation des élections législatives mais présidentielles en 2018. Et le regain de tension et de violence montre en effet que probablement la situation sécuritaire en Libye n'est pas prête encore à organiser des grandes élections qui vont permettre enfin aux Libyens, d'abord de tourner la page de la guerre, mais aussi de tourner la page des accords de Sriarat qui sont aujourd'hui caduques et qui ne sont plus acceptés par une grande partie des Libyens, notamment ceux à l'Est. Et en même temps, les Nations Unies n'ont pas d'autre alternative à part les élections pour justement trouver une dynamique de négociation et une dynamique de paix pour casser ce cycle de violence qui frappe la Libye depuis plusieurs années.
Au Mexique, où la criminalité explosive de ces dernières années est liée aux affrontements et règlements de comptes entre cartels de la drogue, peu de responsables politiques osent se prononcer en faveur de sa légalisation. Jeudi, le ministre du Tourisme, Enrique de la Madrid, a osé le faire. Il suggère de suivre l'exemple de certains États américains, comme la Californie, et de légaliser le cannabis dans les zones touristiques afin de faire chuter cette violence. Mais au Mexique, le scepticisme domine. C'est une correspondance d'Emmanuel Stills.
Qu'un consommateur de cannabis aille en prison est absurde, selon le ministre mexicain du Tourisme. Et il est tout aussi aberrant, d'après Enrique de la Madrid, que des stations balnéaires qui attirent des millions de touristes chaque année soient le cadre de violences, comme c'est le cas à Cancun et Los Cabos, où les affrontements entre groupes criminels menacent de faire fuir les visiteurs. Des violences que ce ministre attribue directement à la prohibition, une politique inadéquate en matière de drogue, selon ce responsable, qui tient des propos audacieux au sein d'un gouvernement plutôt conservateur en la matière. Si cela ne tenait qu'à lui, la production, la vente et la consommation de cannabis seraient légales dans tout le Mexique. Et il propose de faire de 2 régions touristiques, les États de Basse-Californie et du Quintana Roo, les fers de lance de cette légalisation pour freiner l'insécurité. Mais ce débat au Mexique suscite encore trop de réticences dans un pays où la guerre contre le crime organisé et les rivalités entre cartels ont causé près de 200 000 morts ces 10 dernières années. La légalisation sonne encore aux oreilles de certains comme une reddition. Qu'importe si les paroles du ministre font écho à celles du président Enrique Peña Nieto, qui reconnaissait il y a 2 ans que la guerre menée au Mexique contre le narcotrafic n'avait pas enrayé la production, le trafic ou la consommation de drogue. Pour la première fois, un président mexicain admettait l'échec de la prohibition, mais sans pour autant parler de légalisation. Le ministre du Tourisme a franchi le pas et dans la brèche s'engouffrent d'autres voix, nombreuses, qui estiment qu'un bilan aussi sanglant justifie un changement de cap ou au moins l'ouverture d'un vrai débat sur la légalisation des drogues.
Et si le couscous, plat multimillénaire, pouvait mettre d'accord les pays du Maghreb ? Un groupe d'experts algériens, marocains et tunisiens compte le proposer au classement du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO. Ils se réuniront prochainement pour peaufiner en commun leur projet. À dimanche prochain.
Merci à vous Nabil Hamel. La face cachée du globe est à retrouver sur franceculture.fr. Quelques mots de la météo. Temps pluvieux de la Bretagne et des Pays de la Loire jusqu'aux Hauts-de-Seine, la Champagne-Ardenne et la Lorraine. Du soleil sur le relief du Jura et des Pyrénées, des Alpes et du Massif central au pourtour méditerranéen.